gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Figgets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Il y a une musique qui commence. Je vois qu'à la technique, il y a dû laisser aller.
Tu m'as perturbé.
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu. C'est la causerie, comme tous les dimanches, de 22 à 23. Et bien, ce soir, alors avant de vous présenter, qui est... si, on va faire ça comme ça.
Ok.
Parce qu'on est un peu dans l'entre-soi encore ce soir, parce que dehors, il y a plein de gens qui ne sont pas avec nous. Enfin bon, bref. Alors, ce soir, avec nous... il y a Jonathan.
Bonsoir, bonsoir.
Il y a Fab.
Salut, salut.
Et il y a Clara à la technique.
Coucou.
Coucou.
Et Jean-Yves au micro.
Tout à fait.
Qui fait l'ouverture.
C'est ça, sans rire, pour une fois.
Moi, si.
Voilà, c'est ça. C'est bien ça.
Alors, on va raconter que tu as fermé la porte vaillamment à une seconde du début d'antenne et que c'était un geste fabuleux.
Ben oui, mais il fallait pas tout dévoiler. Bon, c'est pas grave, tant pis, ça perd de la magie. Enfin bon. Alors, avant de continuer, enfin d'entamer les sujets comme on fait tous les dimanches, majoritairement, on va vous rappeler les deux, trois choses pour nous contacter. Vous pouvez nous contacter par mail si vous êtes un collectif, des individus avec des parcours de vie. Enfin voilà, contactez-nous.
Même pour nous parler.
Ou simplement. Pour nous parler, enfin voilà. Donc ça se passe à quelle adresse mail ?
À lacausericanu@gmail.com.
C'est ça. Et on a un blog aussi, Fab, tu peux peut-être rappeler l'adresse ?
Alors l'adresse c'est blogs, donc blog au pluriel, .radiocanu.org/lacauserie. Ou alors... c'est ça. Vous allez sur radiocanu.org, vous cherchez les blogs de Radio Canu et vous trouvez la causerie dans la liste.
Fefa ! Eh ben, on en profite aussi pour... tout le monde... Pardon, tout le monde est en train, enfin, dans le studio, il y a deux, trois personnes qui essaient de se débarrasser des moustiques et tout ça. Parce qu'il fait chaud, il y a la lumière, on a les portes ouvertes, enfin bon. Voilà, bref, si je voulais aussi, enfin, on en profite pour saluer les causeuses et causeurs qui ne sont pas là, quoi, vous retrouverez dans les émissions suivante ou pas, enfin bon, vous verrez quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ?
Rien.
C'est un peu, ouais.
C'est un peu ouf quand même.
Oui.
Il faudrait être là quoi.
Bon. Eh bien, on commence avec un premier sujet. C'est toi, Jonathan. Alors, oui. Tu veux nous parler des surdoués, ces grands inadaptés ?
Oui. Inaptes ? Des inaptes, tout à fait. Alors, oui, les surdoués. Comment dire ? Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un surdoué ? Non, parce que tout a commencé quand je me suis mise à lire l'Express.
Ça fait souvent ça.
Ça fait souvent ça.
Ça part mal surtout.
Non, mais c'est dans un cadre de reconversion totalement personnel. Hein. Bref, il y en a qui regardent le foot, moi je lis l'Express. Version web en plus, et donc dans l'Express, il y a des articles très intéressants, oui. Notamment sur les surdoués. Et donc, deux articles qui sont respectivement intitulés « Adulte surdoué » et « Si vous l'étiez sans le savoir ». Et l'autre, « Adulte surdoué, comment les reconnaître ?»
On reconnaît bien l'Express dans les titres.
Exactement. Mais je trouve, enfin, je ne vais pas parler de ça tout le long, mais je trouve que déjà, ça pose bien l'ambiance dans le sens où reconnaître des surdoués.
Ouais.
C'est limite, est-ce que vous pourrez les identifier et ensuite les livrer à la Gestapo s'ils ne portent pas une étoile jaune ? Voilà.
C'est l'express, quoi.
Donc voilà, est-ce que vous serez assez doué pour repérer un surdoué? Mais bon. Dans tous les cas, l'information intéressante que je retire de cet article, c'est que le fait d'être surdoué n'est pas seulement le fait d'avoir réussi d'affiler 4 tests de QI sur Internet, mais c'est une problématique neurophysiologique. C'est-à-dire que ce qu'on appelle vulgairement les surdoués sont simplement des personnes qui, pour le dire vulgairement, ont les connexions qui se font plus vite. Donc c'est très simple. Ce qui se passe dans le cerveau d'une personne surdouée, concrètement, c'est que il est victime il a la chance d'avoir une myélinisation accrue des neurones. C'est-à-dire que les fibres amyéliniques qui protègent les axones sont correctement recouvertes et gainées et les protègent. Je vais expliquer ça en français. Entre chacune de nos cellules, donc notamment les neurones qui sont des cellules, nous avons des axones, c'est-à-dire des liens qui relient ces cellules. Chez les neurones, ce sont les synapses. Ces synapses, ces liens sont entourés de fibres qui permettent de les protéger afin d'éviter les agressions de diverses toxines, etc. Et donc ces protections s'appellent des fibres amyéliniques. Et donc plus on en a, plus les liens sont solides et plus les connexions sont rapides. Donc finalement c'est totalement neurophysio comme phénomène. Et donc quelque part c'est génétique. Donc une personne qui finalement a d'un tissu de fibres amyéliniques plus épais aura des connexions plus rapides, c'est-à-dire que avec ces fibres endommagées, on peut aller à des vitesses de conduction de 2,3 mètres par seconde. Donc c'est des courants électriques en gros qui passent. Quand c'est bien protégé, on passe à 120 mètres par seconde. C'est-à-dire que un axone, enfin un synapse qui est mal protégé, c'est-à-dire où il n'y a pas de ces fibres autour, et entre un synapse qui est bien protégé, il y a une différence de plus de 110 mètres, à peu près.
C'est 60 fois plus rapide.
C'est 60 fois plus rapide. Donc c'est assez impressionnant quand même. Donc c'est se dire que finalement, quelqu'un qui est considéré comme surdoué, c'est simplement quelqu'un qui est en bonne santé, quelque part. Puisque finalement il fait correctement les fibres qui doivent protéger les liens entre ces cellules, etc.
Alors, parce que les fibres qu'ont les surdoués, on va appeler ça comme ça, sont, on va dire, les fibres qu'on devrait tous avoir.
Alors en fait, c'est ça, les fibres amyéliniques, tout le monde les a, puisque ça protège, tout le monde a des neurones, tout le monde a des synapses, tout le monde a ces fibres qui protègent les synapses. Ouais. Sauf que, en effet, suivant donc déjà le caractère génétique, puis ensuite le type de consommation qu'on peut avoir, on peut les endommager. En revanche, c'est l'inverse de la. La sclérose en plaques, c'est ce phénomène de destruction des fibres en fait autour des synapses. Et certaines substances considérées comme toxiques peuvent enrayer cette destruction-là. Donc après, c'est très aléatoire. C'est avant tout génétique. Par contre, voilà, c'est une vraie problématique sociale qui touche des dizaines de milliers de personnes en France, puisque c'est pas ce n'est pas considéré comme une maladie, mais c'est un phénomène physiologique. Ça touche des tas de personnes. Ce ne sont pas des exceptions qui sont surdouées finalement. Et c'est un phénomène qu'on remarque de plus en plus au sein de l'éducation nationale, avec la problématique comment s'occuper des enfants qui présentent ces phénomènes de QI très développé ou voilà.
Avec l'idée qu'on peut tous apprendre un maximum de choses, mais pas tous au même rythme.
Exactement. Ouais. En fait, c'est juste une. Nous allons voir là, c'est simplement une question de rythme et de raisonnement. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on entendrait par comment reconnaître un surdoué et qu'est-ce qu'un surdoué inadapté ou inapte ? C'est simplement que parfois, chez ces personnes-là, on va constater des comportements étranges par rapport à une norme. Alors, la norme, c'est toujours très relatif. Hein. Qu'est-ce qu'un comportement étrange ? Là, c'est simplement le système de traitement de l'information qui va être différent. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par un raisonnement lambda, le raisonnement va passer par d'autres informations qui n'auront peut-être pas été captées par la plupart des gens. L'exemple que je donnais tout à l'heure en préparation, c'est que un surdoué, s'il comprend très bien pourquoi il doit mettre un cube dans un réceptacle qui a une forme de cube, ne comprendra peut-être pas pourquoi il faut mettre une étoile dans ce même réceptacle. Action qui serait tout à fait facile pour la plupart des gens, mais là qui poserait un véritable problème de compréhension à la personne. Parce que d'autres données sont en jeu et que elles ne sont pas prises de la même manière.
Mais qu'il n'y a pas forcément de logique à le faire.
Exactement. Mmh. Et donc, après, la logique est aussi très individuelle. Ah, donc,
fait, oui. Mais pour la personne, c'est pas logique.
Pour la personne, c'est pas logique. Ouais. Et du coup, ça pose problème. Donc, ces difficultés, ça peut être aussi des difficultés d'expression, des difficultés de socialisation. On remarque aussi ce phénomène, comment tu disais, de concentration des personnes.
Mmh. Ah, j'ai perdu le mot.
De
communauté.
Une forme de communauté.
De co-appartenance.
Ouais, c'est la co-appartenance. Oui. De tous faire partie de la même catégorie, entre guillemets. Alors, ça marche avec les catégories socio-professionnelles ou autres, mais ça marche aussi avec le fait d'être tout un tas de surdoués ensemble parce qu'on arrive à se comprendre et qu'on n'a pas à réexpliquer à chaque fois pourquoi on est comme ça, en fait.
Exactement. Mmh. Et puis, ça permet, pour des personnes qui se sentent mal comprises dans notre société, ça permet de se rassembler ou de... Voilà. Enfin, ces personnes, naturellement, vont déjà se fréquenter, se rassembler parce que, comme tu le disais, ils ont l'impression de trouver un...
Des semblables, en fait.
Des semblables.
Mais ce qui prouve que le problème n'est pas lié à ces personnes, mais plutôt à la société qui les renvoie au fait d'être hors normes.
Exactement. Et encore une fois, qui, sur un prétexte de discrimination positive, finit par stigmatiser encore une fois une partie de la population. Et dans quel but ? Eh bien, finalement, c'est dans le but d'excuser un petit peu les carences de notre société. Donc, comme je le disais, ça touche surtout les enfants, cette question de surdouance, etc. Parce que c'est eux qu'on éduque dans des écoles publiques, dans des classes où il faut traiter 30 cas dans le même temps, dans le même moment, de la même manière, et qu'avec des personnes qui vont avoir présenté des raisonnements différents ou des hypersensibilités, ça ne sera pas possible. Et donc, comme ça ne va pas être possible, ça va faire foirer, finalement, tout un programme, toute une façon de fonctionner. Et c'est là le vrai problème, c'est que ces personnes posent problème, de manière pratico-pratique, au sein d'une classe, pendant un temps donné, ou au sein d'une société, d'une entreprise, etc., suivant les postes qu'ils vont acquérir. Et d'ailleurs, paradoxe, ce ne sont pas forcément les gens qui ont le plus gros QI, entre guillemets, et là aussi je vais y revenir tout de suite, mais qui font les plus belles carrières ou qui sont dans des postes décisionnaires.
Ça saurait.
Et oui, puis surtout, c'est des personnes qui sont tellement pas en coordination avec la société qu'on ne peut pas leur confier de diriger quelque chose dont on veut que ça reste comme c'est.
Oui, oui, c'est ça.
Voilà, c'est un peu des esprits. Souvent, ce sont des esprits libres, un petit peu. Dans l'article de l'Express, pour reprendre cette magnifique référence, c'était n'avez-vous pas un ami qui, de temps en temps, répond à côté de la plaque, ou alors est très sensible, ou alors va vous regarder longtemps sans parler, mais vous savez qu'il se passe quelque chose derrière. Donc, ces comportements-là qui, finalement, sont des comportements de réflexion, qui sont des comportements qui vont un petit peu plus loin que la conversation lambda, et ça gêne. En effet, c'est gênant. Alors que, je le rappelle, ce n'est pas une anormalité. Il y a énormément de gens qui présentent ces particularités-là. Je pense que tout autour de nous, on communique avec ces personnes-là. Très bien, voilà. On en est même peut-être nous, qui sait.
Le savoir.
Wow. Et donc, dans l'idée, voilà, les symptômes de cette affreuse maladie, qui est le fait d'être surdoué, c'est de l'empathie.
Horrible.
La précipitation dans le raisonnement. Des réactions non conformes, un silence avec une activité cérébrale intense, des maladresses aussi sociales. Parce qu'en effet, ces difficultés peuvent être assimilées à un handicap social aussi, qui peut, pour certaines personnes et à un certain degré, les empêcher de travailler, les empêcher d'avoir une vie sociale normale, etc.
Moi, j'avais lu sur l'empathie quelque chose d'intéressant. C'était dans les entreprises, justement, les personnes qui avaient... qui ont détecté, c'était aux États-Unis, des personnes qui détectaient comme étant classées comme surdouées, en fait, ils ne leur donnaient pas de poste, et c'était une discrimination, parce qu'ils étaient trop empathiques avec les équipes qui pourraient potentiellement encadrer. Et que du coup, ça n'en faisait pas des bons managers. Donc, ils ne les prenaient pas en disant, on va plutôt lui trouver un poste genre en recherche dans un placard au fond tout seul. Parce que si on lui donne une équipe, il va pas la manager comme il faut.
Il va chambouler ce que disait il va chambouler l'organisation.
Mais complètement, il va détruire une stabilité parce que dans son raisonnement, cette stabilité. Mais du coup, une personne, oui, qui pourrait avoir le pouvoir de raisonner librement, en effet, ça fait peur.
Et c'est ça, ouais.
Un petit peu. Et je pense qu'il y a de ça dans cette vraie question de pourquoi notre société est tellement perturbée par des gens qui ont un gros QI, alors qu'on n'est pas plus perturbé que ça par des gens qui ont une grosse voiture.
Et par contre, j'ai l'impression qu'on admire des gens qui ont des très petits QI.
Alors,
ça,
voilà.
Ça se voit ce soir, par exemple.
D'ailleurs, alors, dans tous les cas, voilà, le QI aussi, c'est une aberration, parce que qu'est-ce que c'est
que
le QI et qu'est-ce que c'est que la surdouance ou le fait d'être encombré de surefficience mentale. En fait, le QI, c'est une donnée. C'est-à-dire que c'est un outil de mesure et qui n'est mesuré aujourd'hui que par un test qui s'appelle le WISC. Donc il existe un WISC pour enfants et un WISC pour adultes.
J'aime bien le WISC Coca, moi.
Oui. Alors là, ça s'écrit WISC, W-I-S-C.
Ah bon, top.
Il n'y avait le K. Et 4, parce que c'est la dernière version qui a été créée en 2004. Donc voilà, un psy qui ferait passer un test ferait passer celui-ci, puisque c'est celui-là qui sert de référence actuellement pour mesurer le QI d'une personne.
Au niveau mondial ou France, en fait ?
Au niveau mondial.
C'est vraiment quelque chose qui permet de comparer les
exactement.
Gens
bah, c'est où qu'ils soient dans le monde. C'est la norme de la médecine psychanalytique.
D'accord.
Et psychiatrique.
D'accord, ok.
Voilà. Donc, tous les tests qu'on rencontre sur Internet sont des tests logiques. C'est absolument... Ça déterminera que plus vous vous entraînez, plus vous réussirez, comme un jeu vidéo. Parce que ce sont des simples tests de logique avec des questions très simple et finalement avec un peu d'entraînement la logique chez tout le monde ça se développe. C'est pas cette question là finalement qui gêne, c'est pas le fait d'avoir une logique ou un sens de la mémoire ou quelque chose. Voilà, le WISC aussi teste principalement le ratio mémoire réflexe et mémoire réaction, mais c'est pas ça l'intelligence en soi, c'est un combiné de plusieurs choses.
Ouais, de plusieurs facteurs.
Exactement. Et donc une fois qu'on a posé ce diagnostic, qu'est-ce qui se passe pour les gens qui se retrouvent à se dire « bah tiens, je suis surdoué, en effet, ça fait des années que j'arrive pas à discuter avec mon entourage, quand je rencontre des gens, j'ai très rapidement l'impression d'être en décalage avec eux, etc. » Et bien, il existe des associations. Alors, des associations qui vous permettront de déterminer si oui ou non vous souffrez. Et vraiment, là, pour le coup, souffrir d'un encombrement de surefficience mentale. C'est une association qui s'appelle Cogito Z, qui a un site internet qui est très bien fait et qui propose des rendez-vous pour des bilans et un suivi éventuellement. Puis plus léger, il y a l'association GAPESM, donc le groupement associatif pour les personnes souffrant d'encombrement de surefficience mentale, qui mesure également le QI des personnes qui auraient besoin de faire de se mettre au clair avec ça. Et puis tout un tas d'associations qui permettent de trouver des outils pour l'éducation, donc notamment l'AFEP et la NPEIP, qui sont l'Association française des enfants précoces et l'Association nationale pour les enfants à intelligence précoce, et qui en fait sont deux associations qui, sur diverses régions, proposent aussi des solutions pour la déscolarisation des élèves, parce qu'un élève qui est surdoué souvent décroche, puisqu'il s'ennuie en classe, puisqu'il est trop empathique, puisque ses camarades de classe, leur comportement l'atteint beaucoup, etc.
Oui, d'ailleurs, il y a un chiffre, je crois, de mémoire, c'est un décrocheur sur trois, il disait. Enfin, une personne qui décroche dans l'éducation nationale sur trois ne décroche pas parce qu'elle n'y arrive pas, elle décroche parce que justement, elle est trop en avance. Et que comme elle s'ennuie, en fait, et bah, du coup, elle laisse tomber parce que ça n'a pas d'intérêt. Imagine.
Une sur trois.
Ouais. Mais d'ailleurs, il y a un phénomène très connu, hein, c'est quand vous vous levez et que vous devez aller faire 8 heures de boulot et que vous avez pas envie, vous faites chier, vous voyez, c'est, oh merde. Et vous faites chier pour toute la journée, pendant 8 heures. Bah, c'est ce qui arrive, en fait, à un enfant. C'est-à-dire que lui, il s'ennuie et du coup, ben, il décroche parce que ça n'a pas d'intérêt, en fait, de... Et souvent, en plus, c'est drôle parce qu'ils n'ont pas l'esprit de compétition, du fait de l'empathie. C'est ce qu'il disait dans l'article que j'avais lu sur les décrocheurs, qui disait qu'en fait, le côté très empathique fait que l'esprit de compétition est assez faible et que du coup, ils ne voient pas l'intérêt d'être le meilleur. Donc, ils ne mettent pas... Ils laissent couler, quoi.
Mais en même temps, sans vouloir faire de jugement personnel, la compétition, ce qu'on disait tout à l'heure, le management d'équipe, c'est des choses de psychopathe où on recrute des profils de psychopathes.
C'est clair, on est d'accord.
Donc, en effet, quand on manifeste un minimum d'empathie, même en étant un peu surdoué, le système de toute manière ne nous convient pas. Et en effet, dans les décrocheurs, souvent, c'est pas l'élève qui est bête.
Non, c'est
que le système ne s'adapte pas. Exactement.
Mais y compris pour les élèves qui ont des difficultés dans l'autre sens, où il n'y a rien de prévu, quoi. Et très honnêtement, c'est pas quand on met 3 heures de plus à la fin en disant il ira faire de la. Au lieu de faire de taper dans le ballon, il ira faire 3 heures de cours en plus qu'on va changer les choses. C'est qu'il y a tout un système à repenser et qu'en fait, on ne le repense ni pour les uns ni pour les autres. En fait.
C'est des associations qui prennent leur lait pour finalement pour reprendre les apprentissages avec d'autres méthodes, peut-être plus ludiques et peut-être plus dans le sens d'une logique qui serait un petit peu plus empathique, un petit peu plus créative.
Mais c'est un défaut très français de laisser à l'associatif le
le soin de régler les problèmes du système. C'est ça a toujours.
Tiens, donne aux associations.
Et la dernière asso, après je laisserai parler mes camarades. C'est Zebra, c'est une association qui est sur Lyon et qui du coup organise des rencontres, notamment des géocoaching ou des cafés rencontres dans la ville, et en fait qui permet aux gens de se rencontrer entre eux, puisque comme nous parlions tout à l'heure des difficultés sociales que les surdoués peuvent rencontrer et du besoin et en même temps du glissement qui fait qu'ils se retrouvent entre eux, là c'est plus facile, c'est direct, c'est fait, et puis surtout la problématique est directement abordée.
Ouais.
Donc les gens qui sont dans le mal-être par rapport à ça peuvent vraiment discuter. C'était une amie que j'avais rencontrée à Paris avec qui on s'est retrouvés à Lyon qui m'en avait parlé et qui me disait que les gens qui allaient là-bas généralement trouvaient au moins une écoute, parce que c'est vrai que de dire bonjour, je suis surdoué, ça va pas dans ma vie, c'est très paradoxal.
Et pourtant, c'est très vrai.
Mais on aurait tendance à se dire que quelqu'un qui va pas, c'est quelqu'un à qui il manque des capacités. Ouais. Alors que là, finalement, pour des inaptes, c'est des grands capables. Donc voilà. Un petit peu de mosaïque.
Allons-y.
Parfait.
But illegitimately to a whore most likely he became an orphan, a wood lovely orphan. He was sent to the reformatory 10 years old was his first glory. Got caught stealing from a nun. Now his love story had begun. Executed. The pure romance was undisputed. Angelic hoodlums and holy ones. Angelic hoodlums and holy ones.
tattoos of shields and tattoos of tears. All those beautiful boys, pimps and queens and criminals. Ships and tattoos of tears. Us, beautiful boys.
Eh bien, c'était All These Beautiful Boys de Coco Rosie, en référence à Jean Genet, un écrivain qui a adoré fréquenter des prisons et les garçons qui s'y trouvaient à son époque.
Et vous êtes toujours dans la causerie sur Radio Canu.
Ouais.
22-23 le dimanche.
Et c'est ça. Jean-Yves va nous parler du pain et des jeux.
Oui, des pains et des jeux. Parce que bon, vous l'avez remarqué, enfin, on est très peu, je pense, à l'écoute des radios ce soir. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont devant leur télé ou devant la télé du resto de leur quartier ou devant la télé. Enfin bon, bref. Donc, on arrive à la fin de cet Euro de foot. Youpi, ça s'arrête. C'est vraiment génial. Et en fait, moi, j'ai été surpris, en fait, au bout d'un mois là, de compétition, bah, de me rendre compte qu'il y a très peu, mais alors vraiment très peu de critiques sur cet événement majeur et sportif de l'année. Et en fait, je me suis dit que c'était peut-être un petit peu la convergence, saleté de moustique, que c'était un peu la convergence, pardon, du silence des luttes, en fait. Parce que je trouve qu'il y a plusieurs choses qui ressortent au travers de ces compétitions, etc. Alors, pour me faire quand même un peu un avis, je suis allé voir sur différents supports, je suis allé voir sur les sites d'information dits alternatifs, rebelles et tout ce qu'on voudra, en me disant ironiquement sûrement que des médias libres, hein, libres de tout truc capitaliste, financier et tout ce qu'on veut, ben, il irait un peu plus dans la critique de ce truc quand même ultra capitaliste que sont l'Euro de foot, les JO, enfin tout ça. Et en fait, non. Donc, un petit peu déçu quand même, parce que je me dis, tiens, ça, pourquoi ? Parce qu'il y a quand même matière. Donc, je vais quand même rectifier mon propos. Il y a quand même eu une action à Paris, c'était en juin 2016. Alors j'ai vu que c'était organisé, je crois, par la CGA Paris, donc c'est la coordination des groupes anarchistes. Je ne sais pas s'ils étaient seuls ou s'il y avait encore d'autres compagnons de la Fédération anarchiste ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était une action à Saint-Denis, ville où il y a le grand stade de France, tout ça. Pour rappeler que l'État a versé quand même 1,7 milliard pour faire des stades ou pour rénover des stades, et qu'à côté de ça, à Saint-Denis, il y avait des appartes insalubres qui ont aussi cramé, et qu'il y a 5 personnes qui ont cramé, quoi, qui sont mortes, brûlées vives. Donc c'est toujours cette notion de, on a du pognon, mais on le met dans des choix politiques. Mm-hmm. Donc voilà. Et donc je me suis dit, tiens, quand même, je vais essayer de nous remémorer un petit peu quand même certaines choses qui pourraient peut-être éveiller, peut-être, un peu de critique. Alors je me suis dit, déjà, c'eût été, je pense, l'euro là, une très bonne occasion, selon moi, de démontrer justement la fausseté des politicards d'à peu près de toutes sortes en ce moment, parce que la gauche n'est plus vraiment à gauche, donc d'un éventail très large de politiciens qui aiment à dénoncer, vous savez, ces blocages incessants de la chienlit, vous savez, la chienlit, quoi, quand même, c'est quand même une expression qui revient en 2016, c'était De Gaulle qui l'utilisait, enfin bref, mais qui là, par contre, ne disent rien. C'est-à-dire qu'on a des, enfin, je prends l'exemple de Lyon, hein. On a des stations qui sont bloquées, on a des trucs, enfin, c'est quand même une sacrée merde. Enfin,
bah, entre les stations de métro bloquées, entre les résidences étudiantes et les hôtels qui ont été réservés par la FIFA pour loger les supporters, entre les dégradations diverses et variées que subissent les riverains et riveraines, on peut dire que c'est un moment assez intéressant, sociologiquement.
C'est ça. Mais...
Finalement, la chienlit, ça fait beaucoup de dégâts, mais le foot encore plus.
C'est ça. Et en fait, je me suis dit, tiens, personne. Enfin, c'est dommage, je trouve, qu'on n'utilise pas ce genre d'événement-là, justement, pour démontrer qu'en fait, quand certains dénoncent les mouvements sociaux, ils sont purement politiques, ils continuent de déverser leur merde libérale et capitaliste en disant, en fait, les manifs et tout ça, on bloque quoi, en fait ? On bloque l'économie, en fait. Mmh. Alors que là, des métros bloqués, ça bloque juste des gens pour rentrer chez eux, pour aller au taf. Et ça, on s'en fout un petit peu, quoi, parce que c'est des petites gens. Donc voilà, c'était une petite première truc, comme ça, je me dis, tiens. Je me suis aussi dit, tiens, des critiques sur l'espace public qui est privatisé. Enfin, je veux dire, toutes les villes qui accueillent ces fameuses fan zones.
Oui, toutes celles qui ont les fan zones, parce que c'est pas forcément celles qui ont les matchs.
Non, oui, de toute façon, Lyon, t'as une fan zone, je crois. Ouais. Ah non, c'est un T, je crois qu'ils ont pas de fan zone. Pourtant, ils ont des matchs.
Ouais, donc c'est un peu compliqué.
Donc c'est un peu complexe. Mais en tout cas, dans certaines villes comme Lyon, comme Paris, Marseille, et comme d'autres, il y a donc des fan zones. Donc ce sont, je prends l'exemple de Lyon, c'est la place Bellecour, donc cette plus grande place d'Europe.
L'une des plus grandes d'Europe et l'une des plus moches du monde.
C'est ça. Et bien celle-là, en fait, elle appartient à l'UEFA pendant un mois.
Plus d'un mois. Parce que ça a démarré
il fallait la mise en place, il faudra compter le démontage.
Alors, est-ce qu'ils payent un loyer pour ça ?
Non.
Alors non, en fait, c'est les villes qui mettent au service d'eux, et je crois même... C'est encore plus pervers, je crois normalement, alors peut-être que ça change entre temps, que les villes doivent payer l'UEFA pour pouvoir rediffuser sur le grand écran.
Non, mais c'est ça.
Sympa.
Ça fait partie du budget culture de la ville.
Moi, quand je serai grand, je serai UEFA. Donc voilà, donc je me suis dit quand même, et en rappelant aussi que l'UEFA, en fait, a été exonérée d'impôts. Hein. C'est-à-dire que sur tous ces événements-là d'un mois, l'État, ça s'est signé en 2010, c'était en prévision pour dire à l'UEFA, si vous nous donnez la Coupe d'Europe, eh ben nous, on vous fait pas payer d'impôts. Donc ce qui est quand même 150 à 200 millions à peu près d'euros qui ne bénéficieront pas à toutes et tous.
On remarquera quand même qu'entre-temps, il y a un président qui a été élu.
De gauche, disons.
Et qui disait que l'ennemi, c'était la finance.
La finance ? Ouais.
Il avait oublié l'UEFA, en fait. Enfin, il aurait oublié tout le reste aussi.
Tu vois, t'es mauvais. L'UEFA, c'est le sport, l'amour, la gloire et tout ça. Et la beauté. pardon. Et donc voilà, c'est quand même. Là, encore une fois, je me dis, encore une fois, ça manque pour moi vraiment de critiques. Il y a très peu, très très peu d'articles critiques sur tout ce truc-là. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, je vais continuer quand même ma petite quête d'informations critiques. Je me suis dit, tiens, sur la présence de flics et la surveillance quand même assez accrue quand même de toutes ces zones. Rien. Tous les flics en civil qu'il peut y avoir, moi j'habite près d'une grande station un peu en bordure de Villeurbanne, et ben là des fois vous avez des quarts de keufs et plein de keufs en civil. Mais c'est normal, c'est pour les supporters, d'accord. Bon, ça dérange personne non plus. Pareil, la compétition, je me suis dit quand même là, nous là, les progressistes, anti-autoritaires, rien en fait. La compétition, je pense qu'elle est jolie quand on s'en gargarise. La non-compétition, pardon, elle est belle quand on s'en gargarise, quand on se dit waouh, ce serait formidable quand même, une éducation sans compétition. Mais quand elle est dans un stade, en fait, on se dit que c'est normal. Hein.
Et que c'est pas grave.
C'est pas grave.
Alors que c'est grave, je pense.
Je pense aussi. Je pense aussi qu'on ne peut pas vouloir quelque chose dans un truc comme les écoles et qu'à côté de ça, on vit dans une société qui n'est faite que de compétition, y compris sportive. Bon, je me suis dit, il y a peut-être des critiques sur les travailleurs qu'on peut exploiter dans le BTP, dans la construction des stades, etc. Que dalle. Bon, c'est pas grave. Je me dis, allez, on continue. Il va y avoir une critique quand même du nationalisme avec tous ces drapeaux. Eh ben non plus, je me suis dit tiens, c'est quand même un peu embêtant parce que moi j'ai rien que ce soir, là on se promenait un petit peu dans Lyon. Ouh là là, bah si t'aimes pas le bleu blanc rouge, tu te sens un peu mal quand même. Je veux dire.
Non, puis c'est au-delà. Enfin, il y a le nationalisme, mais il y a aussi la violence, quoi.
Mais
verbal et physique. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on en est là, quoi. Racontons la vie de la causerie. Avant de venir vous parler au micro, nous mangions un tandoori.
Sur une terrasse.
Voilà, truc très chicos, hein. Et en fait, derrière nous, il y avait des gens qui, eux, soutenaient le Portugal et la France. Voilà. Et qui, par un petit esprit de provocation, gentillette, qui était pas.
C'était pas méchant.
Voilà. Quand les gens sont passés en klaxonnant, en disant vive la France, ont sorti le drapeau portugais. Et là, ça a fusé avec une certaine violence quand même, et très rapide. C'est-à-dire, range ton drapeau ou je vais te le faire bouffer d'une voiture.
Et puis cette personne s'est rassise et son collègue lui a dit qu'est-ce qu'il t'a dit ? Putain, la prochaine fois, on lâche.
Voilà. Et là,
et
du coup,
dis, wow.
On passait d'un truc qui était bon enfant à un truc où d'un coup, on dit, ils vont se taper sur la gueule. Tiens,
c'est ça.
Et on voit, il y a une excitation, une violence intrinsèque quand même.
Puis c'est... Enfin, moi, je suis désolée, j'insiste un peu là-dessus, mais c'est l'occasion pour n'importe quel connard de sortir des remarques racistes sans en être du tout inquiété. Parce que le type à table, donc pour finir dans la vie de la causerie, a fini par dire de toute manière, c'est une équipe pourrie, on va les saigner.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et donc, du coup, enfin. Ouais!
Allez! C'est du sport, quoi, au départ, les gens!
Il y avait la lutte gréco. Enfin, non, justement, les gladiateurs.
C'est ça, c'était les gladiateurs. Mais moi, je trouve vraiment ce côté nationaliste, patriotique, assez gerbant, quand même, parce que bon, il est quand même remis au goût du jour. Et puis, ça fait quand même un petit moment qu'on parle que de foot, quoi. T'as l'impression que dans le monde, il se passe rien, quoi. Donc,
oui, ça, c'était mon autre point.
Ah,
où je me dis, non, mais c'est pas grave, ça continue, c'est très bien. Où justement, je me disais, tiens, personne non plus critique l'effet d'assommoir, d'occupation, on va dire, du cerveau des gens avec ces grands événements sportifs. Encore une fois, il n'y a pas que l'Euro, il y a aussi le Tour de France, les Mondiaux, les Jeux Olympiques d'hiver, les Jeux Olympiques d'été, enfin collection automne-hiver, tout ce que tu veux.
Non, moi je voulais dire, par rapport à ça, il y a une phrase qui m'a marqué, c'est un ancien joueur, Lizarazu, voilà, je crois que c'est comme ça son nom, moi je connais que d'un joueur de foot, et en fait lui il a dit, oui mais les gens ils se plaignent, alors que c'est pareil quand il y a un film qui sort, il y a un engouement. Bon, alors je crois pas qu'on m'ait parlé de Star Wars pendant un mois, par exemple, pour prendre un gros blockbuster que les gens attendaient. Je suis pas persuadé qu'on ait fait des fan zones pour les gens de Star Wars, et je suis encore moins persuadé, je suis même sûr, qu'on n'a pas fermé des routes pour pouvoir permettre de faire la queue devant les cinémas. Je veux dire, non, c'est pas du tout comparable, et c'est pas parce qu'on va parler d'un film une fois, parce que c'est un truc qui est attendu par des millions de gens aux infos, qu'on l'en fait autant que le foot. Et ça me rappelle le commentateur sportif qui avait dit dans une émission, je fais très peu d'émissions de foot, je fais que des émissions de 20h à 20h45 tous les jours, c'est peu pour le foot. Ben, quand même. Je raisonne que, voilà. Et en fait, on voit qu'il y a une démesure totale par rapport à ça et que ça bouffe le reste, quoi. C'est un truc.
C'est ça. Ouais. Mais je me disais, il n'y a jamais eu de bagarre entre les soutiens et les opposés.
Star Wars, Star Trek, ce serait drôle.
Ouais, un truc comme ça, ou ceux qui sont en soutien du côté obscur de la
force. Ouais, ce serait marrant, ça.
Enfin, bon, voilà.
Ou alors les Chewie contre les Ewoks.
Voilà. J'ai tout imaginé comme ça d'un coup. Mais non, mais il n'y a jamais. Voilà, on voit bien que ce n'est pas du tout la même chose et que justement, cette espèce de banalisation en disant c'est comme quand un film sort, c'est totalement faux.
Enfin, bah, ouais. Oui. Et donc, enfin, ouais, quand je vois l'heure, je vais peut-être continuer. Mais enfin, donc moi, surtout, enfin, c'est vraiment cette interrogation. Enfin, moi, encore une fois, là, j'ai pas toutes les réponses, mais c'est mon interrogation quand même à ce silence, en fait, à ce mutisme de tous les milieux qui sont les plus rebelles et les plus qui là n'ont rien à dire. Parce que pourtant, pour moi, là, ce genre d'événement, c'est justement un peu une convergence de plein de merdes, en fait, qu'on déteste, en fait. La compétition, le pognon, la privatisation de toutes les choses qui sont normalement à l'ensemble des gens pour le bénéfice d'entreprises privées. Enfin.
Le nationalisme.
Le nationalisme. C'est ça qui me fait rire. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui peuvent écrire des gros articles, tu vois, un peu en mode, c'est des fachos partout. Et là, en fait, rien.
Mais ça vient d'un mythe, mais qui, moi, m'exaspère. C'est le mythe que le football serait le sport de la classe populaire et que donc, si tu critiques le football, tu critiques la classe populaire. Alors d'abord, c'est complètement débile comme espèce de raisonnement et ça me fait penser un peu au raisonnement idiot des gens qui disent la religion, c'est bon pour les pauvres parce que les pauvres, ils peuvent pas penser sans religion. C'est exactement le même raisonnement à
pauvre,
la con.
Pauvre.
Voilà, pauvre, un peu con. Et donc, déjà, ça m'énerve parce que c'est vraiment là, le mépris de classe. C'est-à-dire de penser que le pauvre, il est obligé d'avoir avoir son ballon de foufoute c'est pour ça. Sentir bien à la télé, quoi. Et en plus, tout ça, c'est vendu, y compris par l'UEFA. C'est-à-dire que l'UEFA, elle nous fait croire que c'est un truc populaire. Non, mais on va arrêter. C'est des milliardaires qui courent sur le terrain, qui engraissent des milliardaires qui font les matchs de foot. Je vous rappelle, hein, Platini qui touche 2 millions d'euros pour de cette blatter. Pour 8 heures de travail. Moi, je vous invite à essayer de toucher 2 millions d'euros pour 8 heures de travail. Bon courage. Donc voilà, c'est tout ça, en fait, le truc. C'est qu'en réalité, on a des milliardaires qui engraissent des milliardaires qui courent après un ballon, qui sont montrés aux pauvres en leur disant « ça, c'est pour vous ». Et là, il est le mépris de classe. Il n'est pas dans le fait de se dire « il y a quand même un problème avec le foot, quoi ». Ben non, le problème, c'est justement ça. C'est qu'il y a un problème avec le foot, mais qu'on ne veut pas le soulever. Parce qu'on a peur que les gens nous disent « ouais, mais tu sais pas rigoler, ouais, mais ceci, ouais, mais cela ». Moi, je vois juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, ben, on a malheureusement un mort, grâce au Mondial, parce que à cause du Mondial. Oui, il est mort à Belfort, il a pris une bonne tarte dans la gueule, parce qu'il a osé demander à quelqu'un d'arrêter de le bousculer. Voilà, c'était à l'issue de France-Allemagne, dans l'euphorie de la victoire de la France. Ben, je me dis, voilà, il y a un moment donné, c'est juste un petit peu flippant de se dire que même ça, on n'en parle pas.
Ouais, ouais,
du mort, voilà. Parce qu'on n'en parle pas.
C'est ça. Donc, non, le sport, c'est joie, bonheur et tout ça, quoi. Enfin, donc voilà, donc effectivement, ça revenait sur ce titre du pain et des jeux, parce que, eh ben, finalement, les choses n'ont pas changé. Et peut-être ce qui me terrifie le plus, c'est que les gens qui se sentent si rebelles, et eh ben là, on les entend pas. Et ça, ça fait chier quand même. Donc, entre la posture et les loisirs, bah, peut-être que des fois, faudra pas choisir, ou je sais pas, ou assumer en tout cas. Enfin, bon, voilà, je.
C'était ton coup de gueule, on sent que ça t'a gonflé.
Un petit peu, un petit peu. Si, alors, je voulais juste faire un petit coucou, hein, parce que je sais que sur Radio Canu, il y a une personne qui était quand même pas mal autour de ça. C'est Delphine qui fait partie du Canu Info du jeudi.
Ouais.
Qui en a vraiment beaucoup parlé, justement, sur toute cette manipulation, sur tout ce pognon, sur toutes ces choses-là, en fait, politiques qu'il y a derrière. Et bon, ben.
Et ben, donc, merci à elle.
C'est
et,
ça.
Et réécoutez les Canu Info du jeudi, que vous trouverez sur les blogs de Radio Canu.
Voilà, c'était Monsieur Promo. Vas-y.
Moi, juste, je trouve ça dommage quand même que sur Facebook, la seule critique qu'il y ait de tout ça, c'est Dory, quoi.
Ouais, mais c'est vrai.
C'est vrai.
L'image est drôle.
L'image est drôle.
Parce qu'on voit Dory.
C'est bien pensé, ouais, ça ouais. va avec le personnage, mais c'est quand même triste
oui.
que le seul moment de pensée individuelle de critique, il passe par un dessin animé pour enfants.
Ouais. Ben ouais. Alors pour recontextualiser pour les gens qui sont derrière le poste que vous
avez
pas
les images,
nous on l'a pas, mais elle tourne sur les réseaux sociaux. C'est en fait on voit Dory du monde du Nemo, de Nemo
et ou du monde de Dory,
du monde de Dory même, qui a je crois un peu une mémoire un petit peu pourrave et qui dit
la loi travail.
C'est ça.
Et oh, qui un ballon de foot.
C'est ça. C'est un petit peu ce qui se passe sur un grand nombre de nos
compatriotes.
Ah non,
c'était pour rire.
De nos amis supporters.
Non, congénères, c'est ça. Congénères, de nos semblables, en fait, humains.
Compatriotes, ça te ferait bon. Ah, oui. C'est pour ça que j'ai sorti.
Bon, allez, trêve de bavardage, passons à la musique.
En fait, tout a commencé en 97. Les codes qui merdent, la merde qui colle, c'est pas très drôle, je m'échappe en crawl. J'ai pas la foi mais les foies et la flemme à la fois. Les bras m'en tombent alors je brasse
à tour de bras.
Je sors de l'eau, de l'au-delà, les talons dans l'estomac. Falbala dans le cerbela et de la morve jusque là. Alors revoilà,
voici
la sociale pornocratie, les bureaucrates,
les bureaux de vote
et toute la crasse qui s'ensuit.
Y'a toujours du tartre au fond de mon moule à tarte. Y'a encore des taches qui débordent à la surface. Je m'emmerde souvent alors je rappe pour passer le temps. Plus arrogant que tu Aragon, j'y se fais carotte son talent. C'est même pas l'heure du bilan de mon bivouac dans l'ouragan. C'est rageant de voir des gens s'aller autant de s'isoler. Genre ma couple, imperbé ma volonté. Mes émotions sont des centristes accouplées à des émeutiers. Aucune raison de me plaindre, aucune non plus de me réjouir. Tantôt je dépece ma libido, tantôt je décalote mon désir. Je pars toujours pessimiste pour éviter la déception. Du coup je passe beaucoup trop de temps à me vautrer dans mon salon.
Mais patatras,
ouais.
Patati et patata, c'est pas terrible. Que de la gueule, schistera, passe aveugle. J'étouffe, me mouche, crache, tousse, ta main me touche.
Aïe.
Je prends la mouche pour moins que ça, je me fais la belle. Doucement, gentiment, le glissement mène au néant. Est-ce moins gênant que d'y va-genoux sous les néons? Pareil qu'à plus de 4, on est une bande de cons. Alors on reste à 3 et on s'enferme dans un salon.
Ça me déçoit aussi,
ouais.
Je suis un ours bipolaire. J'aime les collectifs de loin, bien au chaud dans ma polaire. Le pluriel ne vaut rien à l'homme. Et sitôt que tu te retrouves avec tes potes, tu deviens un être obtus. À tous ceux qui ont cru qu'on faisait du rap festif ou des slogans de manif, je les trucide leur oreille dans l'acide. Vu le spell
ceux qui nous entourent. Faut mieux contourner le moule et se réfugier dans sa tour. Détruire celle qui nous entoure, qui nous domine de haut. Car comme dirait le buzz, la terre est un pays de facho. Y'a plus que le dernier iPhone qui peut te parler de philo. Je crois même que les animaux en ont plus dans le ciboulot. T'as déjà vu des oiseaux s'interdire leur migration pour conserver leurs privilèges, en laisser crever des millions. S'auto-ficher, s'asservir par souci de normalité. Plus la technologie avance, plus on ne cesse de régresser. Paradoxe interne, un parasol semi-ouvert, un parasite pour moi-même. Allez, encore un dernier verre. Mon rap est amer, la mer est sévère. Vu les tonnes de cadavres qu'elle nous ramènera cet hiver.
Des prétendus notaires en terre, des soi-disant sans terre.
Groupuscule,
groupuscule, crépuscule délétère. T'as pas trouvé l'intrus, t'as pas fini de te taire. Travail, famille, pécule, numéro allocataire.
Le pluriel ne vaut rien à l'homme et c'est au con. N'est plus de quatre, on est d'une bande de cons. Le pluriel ne vaut rien à l'homme et c'est au con. N'est plus de quatre, on est d'une bande de cons. Le pluriel ne vaut rien à l'homme et c'est au con.
Et ouais, quand on est une bande de cons. Et bien, vous êtes toujours à l'écoute de la causerie. On vient de s'écouter le pluriel. Et c'est les Chevals Hongrois. J'en ai déjà passé la semaine dernière, mais là, c'est extrait de leur nouvel album, 8 titres ou 9 titres, qui s'appelle Une semaine en Maurienne. Je ne sais pas où vous pouvez le trouver, en concert c'est là, certain.
Sur leur site.
Sur leur site, je l'ai pas vu moi en tout cas. Ah, mais
sur leur site et en concert je crois.
En concert surtout, c'est sûr. Donc vérifiez parce qu'ils ont quelques dates dans la région, je crois, peut-être un peu plus large. Donc courez-y et peut-être un jour les aurons-nous dans la causerie. En tout cas, ce sera avec plaisir. oui, je suis un peu fan. Je crois qu'on va attaquer le troisième et dernier sujet, pardon. Et je crois, Fab, tu nous parlais d'une infiltration. Oui. Pas d'eau, mais de facho.
Ouais, c'est ça, pas d'eau, mais de facho. Oui, alors en fait, je vais vous parler de... Je vais partir de ça, puis je vais un peu élargir après. Je vais vous parler de ce qui s'est passé à la Gay Pride, la marche des fiertés de Toronto. Toronto étant au Canada, hein, pour ceux qui ne suivraient pas. Voilà, alors au Canada, pour vous dire, il y a un groupe qui s'appelle les Zombies Gays Consommateurs de Cannabis, qui avaient donc payé leurs 100 euros pour être présents dans la Pride en tant qu'association LGBT. Et donc ils étaient là, alors habillés avec cette espèce de tenue intégrale, vous savez, qui
seconde
peau. Voilà, seconde peau, cherchez le nom, merci. Qui est très prisée dans le milieu fétichiste et voilà, donc ils avaient tous les apparats d'une association qui avait toute sa place dans la Pride. Ils avaient aussi mis des tutus aux couleurs du drapeau rainbow. Ils avaient des drapeaux rainbow comme cap. Voilà, donc vraiment, ils avaient tout l'attirail qui les rien ne laissait présager qu'ils n'avaient pas leur place. Et ils ont commencé à distribuer des kits de prévention. Voilà, ils ont été marqués dessus, kits de prévention. En français et en anglais, parce qu'on est à Toronto, donc il y a les deux langues du Canada, et donc voilà, les gens prenaient les kits et tout le monde s'attendait à trouver à l'intérieur ce qu'il y a normalement dans un kit de prévention, c'est-à-dire alors soit vous trouvez des choses pour les drogues avec des pailles,
des roules à paille,
des choses comme ça, soit vous trouvez, vous pouvez trouver tout en même temps d'ailleurs, oui. Des préservatifs, des digues dentaires, j'ai perdu le nom du préservatif féminin, pardon, des fémidons, c'est ça,
je sais plus son nom.
Vous trouvez aussi des guides qui vous expliquent comment avoir une sexualité safe, comment aller, quelle association aller voir si vous avez des problèmes de harcèlement, voilà, généralement c'est ce qu'on trouve sur les prides quand on vous remet ce kit là et là pas du tout. Quand les gens ouverts, ils ont été très surpris déjà de trouver un message du Christ qui les accueillait, vu que l'ouverture au-dessus, il y avait donc un message du Christ qui vous rappelait que vous deviez suivre ses commandements.
Mais juste, il avait payé ses 100 balles, lui. C'est juste pour savoir. Pardon.
Et donc, le message du Christ. Et ensuite, à l'intérieur, c'était de pire en pire. D'abord, il y a eu Trudeau, qui est le premier ministre québécois. Non, pas du tout. Canadien, qui a été accusé d'être pédophile. Voilà, et que c'est pour ça qu'il était venu à la Gay Pride, vu que c'est la première fois qu'un premier ministre canadien se rendait à la plus grande Gay Pride du pays, qui est celle de Toronto, et que donc il était accusé d'être pédophile. C'est pour ça qu'il était là. Ensuite, il y avait des photos de personnes en phase terminale de SIDA et des photos sur lesquelles étaient entourées les plaies avec marqué voilà ce qui va vous arriver si vous pratiquer le sexe homosexuel. Voilà, on voit que c'est d'un très grand niveau. Et ensuite, il y avait des passages de la Bible pour nous rappeler que l'homosexualité est contraire à ce que Dieu voudrait. Et après, une démonstration d'un pseudo-scientifique qui dit que c'est contre la nature. Voilà. Bref, on aura compris, c'était pas vraiment des gens friendly, hein, pas du tout même. Et en fait, eh ben, ces gens, ce sont des évangélistes chrétiens. Une secte d'après les médias, mais en réalité pas vraiment, parce que quand on regarde d'où ils sortent, ils sont pas vraiment issus d'une secte ou d'une micro-secte, ils sont plutôt issus d'un courant évangéliste qui est assez présent aux États-Unis et maintenant au Canada, qui se prénomme le Reborn, c'est-à-dire c'est ce fameux courant dont faisait partie George Bush, qui en fait dit qu'on retrouve d'un seul coup, on voit la foi arriver sur soi après avoir prié pendant des heures et que d'un coup, paf, la foi vous vient. Et paf la foi. Et donc du coup, voilà, ce sont des reborn. Donc c'est pas un courant si restreint que ça, parce qu'il faut savoir que d'après eux, parce que c'est eux qui donnent les chiffres, et ce sont donc validés aux États-Unis parce que c'est comme ça, il serait la cinquième religion américaine. Voilà. Donc après d'autres formes de protestantisme et juste en dessous des catholiques. Donc c'est à dire qu'ils sont quand même plutôt bien placés dans le panel. Et c'est donc pas voilà. Et eux ils disent qu'ils sont entre 10 et 15 millions de fidèles. Voilà, ce qui est quand même assez énorme. Hein. C'est pas non plus une petite secte. Ce serait plutôt une grosse secte dans ce cas-là. Bon, remarquez, une religion, c'est qu'une secte qui a réussi. Hein. Et donc voilà. Donc on voit déjà au départ qu'il y avait une volonté de minimiser dans les articles et de faire semblant que c'était des gens minoritaires, alors qu'en fait ils font vraiment partie d'un courant religieux. Je vous rappelle qu'au Canada en ce moment ils sont un petit peu en train de se prendre la tête sur justement les religions par rapport à l'État, l'État par rapport aux religions, parce qu'ils ont un petit problème avec tout un tas de demandes de plusieurs religions qui sont contraires en fait aux règles du pays. Notamment d'avoir des
accommodements, non?
Ouais, c'est les accommodements, mais notamment d'avoir des tribunaux religieux, ce qui au Canada n'est en fait théoriquement pas permis, mais qui, voilà, donc voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils essayent de minimiser et de faire comme si c'était pas un courant majoritaire. Et donc, c'est un petit gars qui s'appelle Bill Watcott, qui est une espèce de timbré fini. Alors lui, il se définit comme étant il se définit comme étant le bras droit de Dieu après Jésus. Voilà, faut pas déconner, il laisse son fils quand même.
Donc, vous avez deux bras droits?
Shiva en avait deux.
Ah voilà. Oui,
voilà. Non mais c'est drôle, c'est-à-dire que c'est le bras droit de Dieu après Jésus. Je trouve que c'est une expression assez marrante. Et donc ce type, il en est pas à sa première. Il s'était infiltré déjà dans une Pride il y a 2 ou 3 ans en arrière, en utilisant quelque chose qui existe, qui est le pastafarisme. Vous savez, c'est les gens qui disent ne pas croire en Dieu et qui ont créé une religion complètement surréaliste de la patte géante qui habiterait dans les montagnes. Et il faut porter des passoires sur la tête pour voilà. Et il s'était déjà à l'époque grimé dans cette association pour pouvoir intégrer la Gay Pride. Et ce que ça souligne, et ça c'est plutôt nouveau, c'est qu'en fait ces gens sont tellement fanatisés qu'en réalité ils font don de leur corps. Alors quand je dis ça, c'est au même titre que ceux qui se sont explosés avec une ceinture d'explosifs mais avec moins de morts, c'est ça qui est plutôt positif, mais c'est que leur corps ne compte plus. C'est-à-dire que pour eux, ils peuvent aller jusqu'à se mettre en danger physiquement, c'est-à-dire aller au milieu d'une Pride, distribuer ça.
Oui, parce que finalement, la combinaison qui recouvre tout le corps dans le milieu fétichiste, c'est une combinaison qui amène à venir être touché.
Oui, et d'ailleurs, c'est ce qui leur est arrivé, hein, a priori.
Et donc, je me dis, pour quelqu'un qui serait homophobe, être caressé de toutes parts par tout un tas d'homosexuels, ça.
Et ben c'est ça, et c'est là qu'on
c'est
voit.
C'est la véritable abnégation.
Ben c'est là qu'on voit que ils dépassent complètement cette notion-là et qu'en fait finalement ils n'ont pas peur d'être malmenés ou d'être amenés à faire des expériences contraires à leurs propres convictions pour pouvoir passer leur message qu'ils estiment étant supérieur. C'est ce qu'on appelle le fanatisme. Hein, ça porte un nom. C'est voilà, on en a un là. Alors c'est marrant parce que au départ les gens rigolaient, c'est-à-dire que tout le monde se disait bon voilà, ils ont bien fait leur coup, ils ont payé leurs $100 et voilà. Sauf qu'au final ça démontre que ben là pour l'instant ils en sont là. Mais alors je me demande ce que c'est que la prochaine étape, parce que quand on en est à se dire à diffuser des tracts qui disent que il faut rayer les homosexuels de la terre parce que ce sont eux qui amènent les plaies sur la terre, vous savez tout ce qui va mal c'est à cause des homos, et bah du coup on voit bien un petit peu la logique jusqu'où ça peut aller et que bah c'est plutôt inquiétant. Et la deuxième réflexion que ça me fait venir, et après j'en aurai terminé, c'est de dire que bah on a un problème avec nos prides. Avec nos marches des fiertés. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est un petit peu tourné sur le côté très commercial et on oublie un petit peu le côté politique. Ce qui fait que la moindre association qui se définit comme les zombies gays consommateurs de cannabis et qui paye ses $100 peut rentrer sur une Pride sans que personne n'ait vérifié qui ils étaient. Et c'est surtout ça qui est problématique. Et que cette ambiance-là, ce fait que les marches des fiertés et les Prides dans le monde se transforment de plus en plus en grand carnaval et se dépolitisent, ça ne peut qu'entraîner un effet boomerang longue et un retour des fanatiques et des fous qui vont nous re-rentrer dans l'art parce que justement, à un moment donné, on va baisser la garde et on va oublier de regarder et de nommer nos ennemis. Et c'est ça la problématique. Et avant de terminer, je vais dire que j'ai fait la Pride de Lyon hier, que je serai à la prochaine Pride parce que j'estime qu'il faut toujours marcher. Je veux juste rappeler qu'il faut marcher parce qu'il y a des gens qui meurent encore partout dans le monde parce qu'ils sont homosexuels, lesbiennes, gays, bi, trans dans le monde, ces personnes-là sont les premières victimes de la haine et non pas d'une peur. C'est pas une phobie, mais c'est d'une haine. Je veux juste rappeler aussi qu'il y a entre, et selon les chiffres, 200 et 800 personnes trans qui meurent chaque année tuées parce qu'elles sont transsexuelles, ces personnes. Et que ça nécessite de marcher. Le problème, c'est que dans la Pride de Lyon, on nous a fait faire un dying. Et moi, le dying, je connais bien, ça fait 25 ans que j'en fais. D'habitude, on faisait ça en mémoire de nos morts. Et là, on a fait ça parce que le président, il n'a pas tenu ses promesses. Mmh. Ben voilà, c'est ça aussi la dépolitisation. C'est que le président ne tienne pas ses promesses, ça, je pense que tout le monde s'y attendait. Il faut arrêter de prendre les gens pour des couillons. Mais qu'on utilise un symbole extrêmement puissant, comme le dying, c'est s'allonger au sol, tous, oui, pendant un temps, pour vraiment montrer
c'est stimuler la mort, en fait.
Stimuler. Et tout ça pour venir sur quelque chose qui était finalement un peu trop léger par rapport à l'acte qu'on fait faire, et ben ça aussi, c'est problématique. Et que toutes ces choses-là, en fait, on comprend que ça part pas forcément d'une mauvaise intention, mais c'est des choses qui, mis bout à bout, finissent par dépolitiser quelque chose qui doit être extrêmement politique, parce qu'on n'obtient pas l'égalité, parce qu'on n'obtient pas le droit à vivre, simplement en souriant et en attendant que ça se passe, ou simplement en ayant des chars qui font boum boum boum, et qu'à un moment donné, il faut remettre du politique là où il y en a de moins en moins. Mmh. Voilà, c'était ma conclusion.
C'est une belle conclusion. Moi je voulais rajouter un truc, mais je crois que je l'ai oublié, alors je sais plus si on passe peut-être à la
musique. Par rapport à la Pride d'hier
ou... Ouais, c'était par rapport à la Pride, mais je...
Bon, si ça te revient, on le dit après.
Ouais,
on fait comme ça.
Malo, Benny. Vous êtes toujours à l'écoute de La Causerie sur Radio Canu et on vient d'écouter un titre qui nous vient du Mali, de Issa Bagayogo, c'était Dambalou.
Et c'était bien.
Ouais, j'ai bien aimé. Et c'est extrait de... Tu peux le dire, non ?
Je dois le dire.
Non, si tu veux pas, tu peux ne pas le dire. C'est pour que les gens ils peuvent le retrouver sur d'autres trucs, mais c'est pas grave.
Bon, c'était un titre extrait de La Planète Bleue, volume 2.
Ouais, bah voilà. On se quitte avec quelques brèves, oui. Très courts. Hein,
tu voulais peut-être nous faire une remarque sur la Gay Pride.
Ah oui, oui. Ouais, c'était, enfin oui, j'ai retrouvé, c'était ce que je voulais dire par rapport à ce die-in, etc. Je trouve toujours très fort quand même que certains arrivent à dire qu'on était déçus par François Hollande. J'aimerais juste dire, je fais partie, moi, de la communauté LGBT. J'en étais pas déçu parce que j'en attendais rien. J'attendais rien d'autre que des politicards, que de nous prendre pour des numéros, des gens qui allaient voter pour eux. Et une fois que vous votiez pour eux, comme disait Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Voilà.
Un grand penseur.
Un grand penseur, mais qui... Un grand politicard, en tout cas.
Ah, ça, c'est sûr. Ouais, par contre, en termes de politicard, il était bon.
Et ben voilà.
Donc, tu voulais nous donner une permanence qui
Ouais, et j'étais très content de voir que ça continue. Ce sont donc les permanences juridiques de soutien aux sans-papiers à la Lutine. C'est toujours dans le 7e arrondissement. Je crois que c'est 91 rue Montesquieu. C'est pas parce que l'été qu'il y a plus de sans-papiers, qu'il y a plus d'emmerdes, qu'il y a plus rien.
Donc oui, parce que c'est des permanences pour les sans-papiers, ouais, et les aidants.
Hein. C'est ça. Ouais. Donc c'est tous les lundis. Alors je les annonce là, je les annoncerai encore la semaine prochaine, mais c'est le 11, le 18 et le 25 juillet. Il y aura des permanences. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et en dernier petit rendez-vous, je pouvais pas ne pas la faire. Il y a l'expo Yoko Ono jusqu'à la semaine prochaine.
C'est la dernière semaine.
C'est la dernière semaine, donc vraiment, vraiment, foncez-y. Allez-y, confrontez-vous, même si vous n'avez pas envie d'y aller au début. Confrontez-vous à vous-même et puis faites-nous des retours, ça pourrait être intéressant, tiens, ça.
Moi, j'ai une annonce à faire parce que je l'ai reçue juste avant. Le Secours Populaire cherche des bénévoles pour les vacances solidaires. Vous savez que chaque année, ils font partir des enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. Et puis cette année, ils comprennent pas trop pourquoi, mais ça arrive. Il manque un peu de bras, de gens, en fait, de bénévoles. Donc si ça vous intéresse de pouvoir aider, alors c'est généralement sur une journée, des fois sur un petit peu plus, il suffit d'accompagner des enfants, d'être là, de les encadrer un minimum et puis de leur faire vivre un peu ce qu'ils ne peuvent pas vivre. C'est-à-dire qu'il y a des gens souvent qui disent oui, mais enfin c'est une journée, oui, mais c'est au moins une journée quoi, pour des enfants qui peuvent pas partir en vacances, c'est déjà pas mal de pouvoir avoir accès à ça. Et on espère un jour pouvoir les faire partir 15 jours, 3 semaines, 1 mois, hein, ça sera avec plaisir, mais ça va demander des sous. Voilà, mais déjà voilà, au moins cette journée-là leur permet de rêver, d'oublier un petit peu. Donc si ça vous intéresse, il faut vous rapprocher des différents secours populaires de vos régions. Et donc voilà, c'est pas compliqué, vous allez sur le site du Secours Populaire, vous trouvez toutes les adresses des secours populaires le plus proche de chez vous, et vous toquez à la porte et vous dites bonjour, ça me dirait bien de vous filer un coup de main. Voilà.
Ok. Et ben on a tout donné, tout dit. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Normalement. Oui. Normalement, oui.
On sera là. On espère que vous... Ah non, toi tu seras pas là, Jonathan.
Moi je serai pas là, mais c'est pas grave parce qu'il y aura Jean-Yves et Fab. Et peut-être
pas moi. Peut-être pas Clara. En fait, on sera peut-être que deux la semaine prochaine. Peut-être trois, je sais pas.
Bon, en tout cas, on espère que peut-être que la semaine prochaine vous serez peut-être plus nombreuses et nombreux derrière le
en
poste.
Direct.
Parce que je crois que là on est un petit peu. Écoutez, on est un peu oublié au fond de notre bande FM. Oh les gens,
on s'est fait doubler par un ballon rond.
C'est ça, mais ça roule tellement plus vite.
Et je crois que j'ai gagné, j'ai fait 12 moustiques. Vous avez fait
bravo. Bravo.
C'était pas mal.
Superbe bilan de fin de soirée. Voilà. Et on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, bon courage pour la semaine à venir.
Ouais. Bon courage pour dormir cette nuit.
Aussi.
Ouais. Aussi.
Et puis des bisous et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et on se quitte avec...
Oui, c'est moi, pardon, j'ai oublié de le dire. Alors, je vais rouvrir mon cahier. On se quitte avec Klaus Naomi.
C'est ça.
Ça, c'est sûr, j'avais oublié. Et avec Total Eclipse. Ah oui, et justement, je voulais juste en profiter pour dédier ce titre, en fait, à toutes celles et tous ceux qui luttent chaque jour pour que dans le monde, nous soyons égaux, et notamment sur les thématiques LGBT. Et je voudrais saluer le président de l'association Shams, qui était en Tunisie et qui a tenté de mettre fin à ses jours suite à la pression qu'il a reçue parce qu'il défendait les droits des homosexuels dans le monde, et en Tunisie en particulier, et qui a tenté de mettre fin à ses jours. Voilà. Et j'espère qu'il sortira de son coma, et j'espère que ça ira. Mais en tout cas, ça fait pas joyeux le lendemain d'une Gay Pride d'apprendre ça. Voilà. Et bonne semaine.
C'est ça, bon courage à toutes et à tous. Ciao.
Ciao.